Selon un site d'information que j'ai trouvé sur Internet, il se vendait en 2012 54 téléphones portables chaque seconde dans le monde, soit 1 milliard 700 millions par an. Donc ça, c'était en 2012. Un peu plus tôt, en 2009, il y avait 4 milliards de téléphones sur la planète. En 2014, 7 milliards, soit à peu près un téléphone portable par habitant dans le monde. Pour les chiffres en France, j'ai trouvé qu'en 2014, il y avait en France 72 millions de téléphones, soit plus d'un téléphone portable par habitant. Objet de luxe, il y a encore quelques années, le téléphone portable est devenu un outil indispensable et aussi un objet, un produit jetable. On s'en lasse rapidement, au bout de quelques mois, voire de quelques semaines, et on en acquiert un nouveau. Notre rapport au téléphone portable est un phénomène assez représentatif de notre société de consommation. On crée des objets qui s'usent vite, car les consommateurs que nous sommes jettent ce qui est vieux et achètent du neuf le plus souvent. Et c'est comme ça que ça marche. Ce qui n'est pas sans conséquence sur l'environnement, par exemple. On jette 50 000 tonnes de chargeurs de téléphones portables par an. Notre monde consommateur a donc un aspect éphémère. On nous pousse à vivre dans l'instant présent pour ne pas avoir à nous soucier du passé et de l'avenir. Tant que nous sommes productifs et acheteurs, nous sommes utiles aux yeux de notre société et peut-être utiles à nos propres yeux. Nous défendons notre pouvoir d'achat, n'est-ce pas ? À l'époque du prophète Jérémie, le peuple d'Israël était devenu accro dans la consommation d'objets qui ne durent pas. Et Dieu appelle son peuple à se détourner de ces objets pour revenir à lui. Je ne prêche pas ce matin la fin du téléphone portable, mais je vous invite à ouvrir la Bible dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 10. Nous allons essayer de voir comment la situation du peuple d'Israël et ce que le prophète Jérémie lui dit est en lien, d'une certaine manière, avec ce que nous pouvons vivre aujourd'hui dans notre propre monde, dans notre propre société. Ce matin, c'est le premier dimanche du mois et c'est notre prédication sur la doctrine chrétienne. Et le thème de ce matin, c'est Dieu, roi des siècles, roi éternel. Et on a déjà touché à ce thème dans la première partie de notre culte, où la notion d'éternité est revenue à plusieurs reprises. Alors plutôt qu'une réflexion théorique sur l'idée d'éternité, ce qui pourrait être intéressant d'ailleurs, je vous propose d'aborder ce thème du Dieu éternel au travers d'une situation concrète qui est décrite là dans le chapitre 10 du livre du prophète Jérémie. Et je vais lire du verset 1 jusqu'au verset 16. Écoutez la parole que le Seigneur prononce contre vous, maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur. Ne cherchez pas à apprendre les pratiques des nations. Et ne soyez pas terrifiés par les signes du ciel comme le sont les nations, car les prescriptions des peuples ne sont que futilité. On coupe du bois dans la forêt, la main de l'artisan le travaille au ciseau, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous au marteau pour qu'il ne vacille pas. Ils sont comme un palmier d'argent martelé, ils ne parlent pas. Il faut les porter car ils ne peuvent pas faire un pas. N'ayez pas peur d'eux, car ils ne sauraient faire aucun mal, de même qu'ils sont incapables de faire aucun bien. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Tu es grand, et ton nom est grand par sa puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations ? Cela t'est dû, car parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, nul n'est semblable à toi. Tous, sans exception, sont abrutis et stupides. L'instruction des futilités, ce n'est que du bois. On apporte de Tarsis des lames d'argent et d'Ouphaz de l'or. L'artisan les travaille, les mains de l'orfèvre les cisèle. On les habille de pourpre, violette et rouge. Ce ne sont que des œuvres d'art. Mais le Seigneur est Dieu en vérité. Il est le Dieu vivant et le roi éternel. La terre tremble devant sa colère. Les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur direz, les dieux qui n'ont pas fait le ciel et la terre disparaîtront de la terre et de dessous le ciel. Dieu fait la terre par sa puissance. Il met en place le monde par sa sagesse. Il a déployé le ciel par son intelligence. Lorsqu'il fait entendre sa voix, les eaux s'amassent dans le ciel. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs pour la pluie. Il fait sortir le vent de ses réserves. Ils sont tous trop abrutis pour comprendre. Tout orfèvre est honteux de sa statue, car ses idoles ne sont que mensonges. Il n'y a pas de souffle en elles. Elles ne sont que futilité, œuvre ridicule. Elles disparaîtront au temps où ils rendront des comptes. Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle. C'est lui qui façonne tout. Israël est la tribu qui constitue son patrimoine. Son nom, c'est le Seigneur des armées. Quel est le problème ici ? Pourquoi est-ce que le prophète Jérémie prend la parole ? Il dénonce ici une vie qui est dominée par des choses futiles, éphémères. Et il délivre un oracle du Seigneur. Verset 2. Ainsi parle le Seigneur. Écoutez la parole que le Seigneur prononce contre vous, maison d'Israël. Pourquoi ? Parce qu'Israël, le peuple de Dieu, ce peuple qu'il a fait sortir de l'esclavage d'Égypte, s'est laissé séduire par l'idolâtrie des autres peuples. Qu'est-ce que c'est l'idolâtrie ? Nous en avons quelques éléments de définition ici. Verset 2, « Ne cherchez pas à apprendre les pratiques des autres nations, ne soyez pas terrifiés par les signes du ciel comme le sont les autres nations, car les prescriptions des peuples ne sont que futilité. » Qu'est-ce que c'est l'idolâtrie ? Ça fonctionne comme ça. L'être humain, tout être humain, fait face aux grandes questions de l'existence. Qui suis-je ? Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Pourquoi la vie ? Pourquoi la mort ? Et les hommes, dans leur propre réflexion, sans faire intervenir Dieu, voient des signes dans le ciel. Et cette expression « signe dans le ciel », on la trouve dès le premier chapitre de la Genèse. Verset 14, « Dieu a mis dans le ciel des signes, des luminaires, le soleil, la lune, les étoiles pour éclairer, marquer les saisons. » Et les hommes observent la nature, et au lieu d'adorer le Créateur, ils adorent la nature. Ils adorent le soleil, ils adorent la lune, les étoiles, l'horoscope, tout ça c'est basé là-dessus. Le péché pousse les hommes à craindre les astres, comme nous dit ici le verset 2. Ne soyez pas terrifiés par les signes du ciel, comme le sont les nations. Les hommes, à cause du péché, poussés par le mal, détournent la création en adoration de la création. Ils prennent pour des dieux des choses qui n'en sont pas. Le soleil, la lune, les étoiles. Et pour se protéger du dieu soleil ou de la déesse lune, les hommes se donnent des règles religieuses et se fabriquent des images de la création. Ce qui s'oppose au désir de Dieu, du Dieu créateur, qui dit dans les 10 commandements, « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, et tu ne te feras pas d'image taillée, de représentation de la création. » L'auteur nous donne ici quelques caractéristiques de ces idoles que les hommes se fabriquent et qu'ils prennent pour des dieux, à qui ils attribuent leur origine ou leur peur de la mort ou leur joie dans la vie. 3 caractéristiques ici. Ces idoles sont incapables, elles sont muettes et elles sont futiles. Si votre téléphone portable est éteint, il est inutilisable ou quasiment inutilisable. Il fait quelque chose tout seul, mais pas beaucoup. Il faut l'allumer pour le rendre actif et pour pouvoir s'en servir. Votre téléphone portable ne parle pas de lui-même. Nos téléphones portables ne sont pas toujours fiables. Ils s'usent vite et on les remplace en quelques mois par un plus performant. Notre confiance est forcément limitée dans notre téléphone portable. Il a une certaine utilité, mais aussi une certaine futilité. Il passe, il ne dure pas. Il est limité dans ses capacités. Voilà quelques éléments que l'on trouve dans ces premiers versets de ce chapitre. Et puis, l'auteur revient à la charge au verset 8. Il dit « Tous sans exception sont abrutis et stupides. L'instruction des futilités, ce n'est que du bois. » Et puis, il montre qu'on fait des œuvres d'art avec de l'or, de l'argent, qu'on importe. Le commerce, c'est fait pour ça aussi. Lorsqu'il se coupe de son créateur, l'homme est voué à manquer de sagesse. Et les propos de Jérémie sont durs ici. Il dit « Les hommes sont abrutis et stupides. Pourquoi ?» Pourquoi ? Le problème, c'est que l'idolâtrie, ça fonctionne en miroir. J'attribue des propriétés magiques ou un certain pouvoir efficace à un objet, comme s'il s'agissait d'une divinité, et en retour, cette idole que je me suis fabriquée façonne mon caractère. Pourquoi ? Parce que l'homme qui est créé image de Dieu cherche dans ces objets-là à devenir plus intelligent. Mais en fait, il devient stupide à cause de son idolâtrie parce qu'il met sa confiance dans du bois, dans de la pierre ou dans des composants électroniques aujourd'hui. Nous envoyons beaucoup de SMS qui sont des messages raccourcis. Gain de temps, gain d'énergie, pour éviter les crampes pour la main, pour le doigt. Mais quand notre langage SMS remplace notre propre langue, on voit alors l'influence des objets de notre consommation sur notre caractère. Au point que certains ont beaucoup de mal avec la langue française parce qu'ils parlent SMS. C'est une image qui montre comment nos objets nous influencent. Et d'une certaine manière, nous pouvons aussi, sans y faire attention, nous soumettre aux capacités de nos objets. L'idolâtrie replie l'homme sur lui-même. Ses capacités se confondent avec celles de l'objet auquel il se soumet. Et Jérémie rappelle ici au verset 9, ce ne sont que des œuvres d'art. Des œuvres d'art, oui. Beau téléphone portable, c'est beau. On admire l'imagination humaine et on a raison de le faire. Dieu nous a donné un cerveau, Dieu nous a donné des capacités pour concevoir des outils technologiques. Le problème, c'est quand on devient esclave de ces objets. Ce ne sont que des œuvres d'art. Et il y a une troisième partie dans ce passage, versets 14 et verset 15, une sorte de troisième charge du prophète Jérémie contre les idoles, qui regroupe un peu les 2 premières. D'abord, il dit que l'idole est un mensonge. verset 14. Ces idoles ne sont que mensonges. Et ces idoles n'ont pas de souffle, donc pas de vie. Nos téléphones portables ne sont pas vivants, même s'ils animent notre quotidien. Ils vibrent, ils sonnent, ils animent notre quotidien, mais ils ne vivent pas. Ils n'ont pas de souffle de vie. Ce sont des œuvres d'art, nous l'avons vu au verset 9, et maintenant l'auteur nous dit que ces œuvres d'art sont finalement des œuvres ridicules, au verset 15. Elles ne sont que futilité, œuvres ridicules, elles disparaîtront au temps où ils rendront des comptes. Elles sont ridicules parce qu'elles sont vouées à disparaître. Et dans notre manière de consommer, nous pouvons déjà le voir. Un téléphone portable qui était, il y a 5 ans, considéré comme une œuvre d'art, est aujourd'hui une œuvre ridicule par rapport à l'évolution technologique. Il y a des téléphones portables qui sont des dinosaures, alors qu'ils n'ont que quelques années. Voilà un aspect éphémère. L'aspect éphémère de l'idole. Elle n'est pas satisfaisante, elle ne tient pas toutes ses promesses, c'est-à-dire tout ce que nous espérions qu'elle nous procure comme satisfaction. Elles sont insatisfaisantes, donc on en change régulièrement pour une qui nous semble plus prometteuse. Et donc voilà le constat que dresse le prophète Jérémie à la demande du Seigneur qui l'envoie et dit « Va et proclame ce message au peuple ». Et la première chose que je retiens pour nous ce matin, c'est l'idolâtrie, ça existe. Israël était allé loin dans son désir d'imiter les pratiques des autres peuples. Et Dieu l'appelle à changer d'attitude, à changer de mentalité, à ne pas se laisser façonner par ses idoles ou par la mentalité ambiante, mais à réagir en revenant à Dieu. Il dénonce des objets, des idoles qui sont incapables, muets, sans vie, qui sont de pure projection des désirs et des peurs humaines, peur de la vie, peur de la mort. L'idolâtrie est une forme d'adoration de la création, donc une révolte contre Dieu, notre Créateur. Alors, la question que je me suis posé pour moi-même et que je vous pose ce matin. Quelles sont vos idoles à vous ? J'ai illustré tout au long de cette première partie avec le téléphone portable, mais le téléphone portable n'est pas une idole en soi. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. Il est difficile de s'en passer aujourd'hui. Mais ça peut être une idole quand c'est un objet qui vient nous rassurer. Quels sont les objets qui viennent nous rassurer? Et par rapport à quelle peur? Avons-nous peur de la mort? Avons-nous peur de l'avenir? Avons-nous peur du présent et de ses difficultés? Qu'est-ce qui, dans nos vies, prend plus ou moins la place de Dieu? Du Dieu vivant, nous allons le voir dans un instant. À l'opposé de ces idoles qui ne durent pas, il y a le Dieu d'éternité. Ce sera le deuxième temps de cette prédication. Le Seigneur, le roi d'éternité. Il y a 3 charges du prophète Jérémie contre les idoles et il y a 3 rappels de qui est Dieu dans ce texte. D'abord, verset 6 et verset 7. « Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Tu es grand, et ton nom est grand par sa puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? Cela t'est dû. Car parmi tous les sages des nations et dans tous les royaumes, nul n'est semblable à toi. » Première idée forte qui revient au début et à la fin, comme en sandwich, « Personne n'est comme Dieu. Dieu est unique. Il y a un seul Dieu. » Deuxième point, les idoles étaient souvent locales, le dieu du village, ou le dieu du pays, ou le dieu d'une nation. Et quand une nation envahissait une autre nation, elle se soumettait les dieux de cette nation. Des idoles locales. Eh bien, à ces idoles locales s'oppose le Dieu qui est le roi des nations. C'est ça que nous dit Jérémie. Il est le roi de toutes les nations. Et donc, il est supérieur à tous ces dieux qui sont des dieux en apparence, mais qui sont des faux dieux, qui sont des idoles. Dieu est roi. Et Dieu est roi sur toute la terre. Dieu n'appartient pas à un peuple, mais tous les peuples lui appartiennent. Dieu n'appartient pas à un peuple, mais tous les peuples lui appartiennent. Et à ce roi divin, tous les hommes doivent le respect, l'honneur, la gloire. C'est ce que dit Jérémie ici. « Qui ne te craindrait, roi des nations ? Cela t'est dû. » Cela t'est dû. Nous devons donner à Dieu gloire et honneur. Dieu est supérieur à tous les sages de tous les royaumes. Et on voit un contraste ici entre la sagesse de Dieu et la stupidité, l'imbécilité des hommes qui courent après des futilités. Deuxième passage dans notre texte où Jérémie rappelle qui est Dieu. Et c'est là le verset clé de notre prédication ce matin. Verset 10, Jérémie 10, 10, c'est facile à se rappeler. « Mais le Seigneur est Dieu en vérité. Il est le Dieu vivant et le roi d'éternité » ou le roi éternel. Tout à l'heure, le prophète Jérémie dénoncer l'idole comme mensonge. Eh bien, à ces idoles qui sont des mensonges, s'oppose le Seigneur qui est Dieu en vérité. Verset 10. À ces idoles qui sont futiles et sans souffle de vie, s'oppose le Seigneur qui est le Dieu vivant et le roi éternel. Ceux qui craignent la colère des dieux, des idoles, et qui tentent de les apaiser par des incantations ou par des sacrifices, devront faire face à la justice et à la colère de Dieu. Et personne ne pourra soutenir la comparaison. Les gens se rendront compte, tôt ou tard, des dieux superficiels qu'ils se sont donnés lorsqu'ils verront ces dieux-là disparaître. C'est ce qui est annoncé ici aux nations, au verset 11. Et peut-être dans la traduction que vous avez sous les yeux, le verset 11 est en italique, les lettres sont penchées. Pourquoi ? Parce que dans le texte original en hébreu, ce verset n'est pas en hébreu. Il est en araméen, qui était un dialecte de l'hébreu, et probablement à l'époque, la langue internationale. C'est comme si aujourd'hui on voulait faire passer un message au plus grand nombre, on le dirait en anglais. Là, on dit le verset en araméen. Qu'est-ce qui est dit ? Dieu dit... Vous leur direz, aux nations, les dieux qui n'ont pas fait le ciel et la terre disparaîtront de la terre et de dessous le ciel. C'est comme si on envoyait un message en anglais aujourd'hui à tous les peuples pour leur dire « Eh, les objets dans lesquels vous mettez votre confiance aujourd'hui, ça va disparaître, ça va dégager tout ça. Mettez votre confiance dans ce qui dure. Mettez votre confiance dans le Dieu éternel. » Jérémie disait que les idoles sont incapables de rien faire, ni mal, ni bien. Ce sont du bois, de la pierre, des composants électroniques. À ces objets incapables s'oppose le Dieu créateur. Verset 12. Dieu fait la terre par sa puissance. Il met en place le monde par sa sagesse. Il a déployé le ciel par son intelligence. Dieu crée. Dieu est capable, lui. Jérémie nous disait que les idoles sont muettes, elles ne parlent pas. Dieu, lui, parle. Verset 13. Lorsqu'il fait entendre sa voix, les eaux s'amassent dans le ciel. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs pour la pluie. Il fait sortir le vent de ses réserves. Toutes ces choses, on les attribue à des divinités. Les Baals, par exemple. Baal, c'était le dieu de la foudre. Donc on priait Baal pour que la pluie vienne et qu'on ait des bonnes récoltes. Le prophète Jérémie dit, Baal, c'est du vent. Il y a un seul Dieu. Et c'est de lui que viennent la pluie, les éclairs, les récoltes. Tous ces éléments de la création que les hommes transforment en divinités pour affronter leurs peurs ou satisfaire leurs désirs, le prophète Jérémie nous dit, c'est l'œuvre d'un seul Dieu qui est éternel et créateur. Il le dit dans ce troisième passage au verset 16, c'est lui qui façonne tout. Tout. Si c'est Dieu qui façonne tout et que les hommes façonnent des idoles à leur image, alors les hommes se prennent pour Dieu. Et le prophète Jérémie nous rappelle que Dieu n'est pas comme les idoles. Verset 16, « Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle, c'est lui qui façonne tout. » Il ne faut pas confondre l'original et les copies. Certains sont partis au pays cet été. Et j'imagine que quand vous goûtez les fruits d'ici en comparaison des fruits que vous avez goûtés au pays, vous vous dites les fruits que nous mangeons ici sont de pâle copie. Rien ne vaut un bon fruit mûr cueilli dans le pays d'origine, n'est-ce pas? J'ai mangé une fois de la mangue au Burkina Faso, et puis après j'ai goûté de la mangue ici. Déception. L'original et la copie ne sont pas comparables. Regardez le nombre d'objets de contrefaçon dans notre monde aujourd'hui. On essaye d'imiter le vrai, d'imiter les marques, pour les vendre moins cher et pour se faire de l'argent, évidemment. Il y a là un détournement, une corruption. Et c'est ça le mal. Le mal est toujours une corruption, un détournement du bien. Eh bien, ici, Jérémie nous rappelle que nous n'avons pas le droit de faire de contrefaçon de Dieu. Nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi, Seigneur. Ce n'est pas parce que quelque chose prend la place de Dieu que c'est Dieu. Dieu parle, Dieu agit, Dieu veut notre bien, Dieu est éternel. Et dans un monde qui nous, comme le nôtre, où tout va vite, où notre capacité technologique nous donne l'illusion que nous sommes comme des dieux et que nous tentons de cacher notre peur de la vie et de la mort dans une surconsommation d'objets, le prophète Jérémie nous rappelle, mais le Seigneur est Dieu en vérité. Il est le Dieu vivant et le roi éternel. Dieu est éternel, c'est-à-dire il n'a ni commencement ni fin, et il nous appelle à mettre notre confiance en lui plutôt qu'en des choses qui ne durent pas. Cet appel que Dieu lance à son peuple il y a bien des siècles, du temps du prophète Jérémie, cet appel résonne des siècles plus tard, mais cette fois pas seulement pour le peuple d'Israël, mais aussi pour le monde grec et romain. Et pour conclure, je vous invite à faire une deuxième lecture dans le Nouveau Testament, cette fois dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17. Je vais lire le discours que Paul a prononcé dans la ville d'Athènes. Actes chapitre 17, à partir du verset 16. Je vais lire le texte et puis, en cours de lecture, je ferai quelques remarques, j'inclurai quelques remarques. Discours de Paul à Athènes. Tandis que Paul les attendait, il attendait ses collaborateurs à Athènes, la vue de cette ville vouée aux idoles l'exaspérait. À tous les coins de rue, il y avait un temple dédié à une idole. Et puis les Grecs et les Romains, ils prenaient tout ce qui venait. Les dieux, les croyances, les religions de partout dans le monde, tout est bon, il y a une part de vrai dans tout. Ça ne change pas d'aujourd'hui. La vue de cette ville vouée aux idoles l'exaspérait. Paul discutait donc avec les juifs et les adorateurs dans la synagogue, mais aussi chaque jour avec ceux qui se trouvaient sur la place publique. Quelques philosophes, épicuriens et stoïciens vinrent parler avec lui. Les uns disaient « Que veut dire cette jacasse ?» D'autres « Ce doit être un prédicateur de divinités étrangères. » Cela parce qu'il annonçait la bonne nouvelle de Jésus et la résurrection. Alors ils le prirent, le menèrent à l'aréopage et dirent « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement dont tu parles ?» L'aréopage, c'est le web de l'époque, c'est l'internet de l'époque. On venait là et puis on discutait des grands sujets, c'était le forum de l'époque. « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement dont tu parles ? Car tu portes à nos oreilles des choses étranges. Nous souhaiterions donc savoir ce que cela veut dire. » De fait, tous les Athéniens et les étrangers venus parmi eux passaient tout leur temps à raconter et à écouter les dernières nouveautés. Le buzz. Tout ce qui faisait le buzz, on en discutait à l'aréopage. Debout au milieu de l'aréopage, Paul dit « Homme d'Athènes, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux. En passant, en effet, j'ai observé vos objets de culte et j'ai même trouvé un autel avec cette inscription à un dieu inconnu. » Ça, c'est fort. Comme ça, les Romains et les Grecs, ils étaient sûrs d'oublier personne. Un dieu inconnu, donc on fait un sacrifice à un dieu inconnu, comme ça, si on ne l'a pas dans sa liste des dieux, c'est pas grave, on est tranquille. Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est cela même que moi je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde, écoutez bien, on croirait entendre Jérémie. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des sanctuaires fabriqués par des mains humaines. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. C'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. D'un seul être humain, il a fait toutes les nations, pour que ceux-ci habitent sur toute la surface de la terre, dans les temps fixés et les limites qu'il a instituées, afin qu'il cherche Dieu, si tant est qu'on puisse le trouver en tâtonnant. Pourtant, il n'est pas loin de chacun de nous, car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est d'ailleurs ce qu'ont dit quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi de sa lignée. Là, il cite un poète grec. Si donc nous sommes la lignée de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'imagination des hommes. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu appelle maintenant tous les humains, en tout lieu, à changer radicalement, à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il va juger toute la terre habitée, selon la justice, par un homme qu'il a institué. Et il en a donné à tous une preuve digne de foi, en le ressuscitant. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, certains se moquèrent et dirent « Oula, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Et Paul sortit du milieu d'eux. Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et devinrent croyants, parmi eux Denis l'Aréopagite, une femme nommée Damaris, et d'autres encore. Des siècles ont passé entre le prophète Jérémie et l'apôtre Paul. Et des siècles ont passé entre le temps de l'apôtre Paul, premier siècle après Jésus-Christ, et l'année 2015 que nous vivons. Pourtant, ces paroles sont toujours vraies, toujours d'actualité pour nous. Face à l'incertitude que nous vivons dans notre société. Incertitude que notre société essaye de cacher par tous les moyens. Et bien face à cette incertitude, l'éternité de Dieu et la vie éternelle qu'il veut nous donner en Jésus-Christ sont une réponse puissante et la seule qui puisse nous secourir. Et notez que ce message que nous sommes invités à recevoir, nous sommes aussi invités à le proclamer. Paul le fait ici, Jérémie le faisait déjà à son époque. Je relis ce verset 10, je relis aussi le verset 11. « Vous leur direz, les dieux qui n'ont pas fait le ciel et la terre disparaîtront de la terre et de dessous le ciel. » Dites-le aux nations, dites-le qu'il y a un seul chemin, Jésus-Christ. Que tous les autres ne sont que futilité, perte de temps et d'énergie. Le message qui est à recevoir pour nous ce matin est celui-ci. Mais le Seigneur est Dieu en vérité. Il est le Dieu vivant et le roi d'éternité. Est-ce que nous en sommes convaincus? Nous allons prier. Seigneur, merci parce que tu es notre Créateur, c'est toi qui nous as donné la vie. Nous voyons que la mort est là, que le mal est là, à cause du péché. Et nous sommes atteints par ce mal et cette mort. Un jour nous allons mourir, la vie passe vite. Et peut-être nous sommes ce matin dans l'incertitude. C'est la rentrée, mais peut-être nous sommes inquiets pour les semaines qui viennent, l'année qui vient, les années qui viennent, l'avenir. Peut-être pour notre métier, peut-être pour notre couple, notre famille. Peut-être que nous nous posons ces grandes questions. D'où est-ce que nous venons? Où est-ce que nous allons? Pourquoi la mort? Est-ce qu'il y a un Dieu? À toutes ces questions, tu as des réponses, parce que c'est toi qui nous as créés. Aide-nous à venir à toi ce matin, que ce soit pour découvrir que tu es le roi d'éternité ou pour nous le rappeler parce que nous avons besoin d'être encouragés. Merci parce que tu es éternel. Et nous voyons notre monde qui passe, nous voyons ce monde avec toutes ces situations si dramatiques. Nous savons qu'un jour, tu viendras mettre un terme aux souffrances et au mal et à la mort. Et en attendant, nous voulons compter sur cette parole que nous avons entendue de la part du prophète Jérémie, de la part de Paul, qu'il y a un Dieu et que ce Dieu est Dieu pour toujours et que ce Dieu nous appelle à vivre pour toujours avec lui. Et que pour pouvoir vivre avec lui toujours, il a envoyé son Fils Jésus. Mourir à notre place, porter nos péchés pour que nous soyons délivrés du mal et de la mort. Alors nous voulons te dire merci et nous voulons te dire aide-nous Seigneur, viens à notre secours, aide-nous à te faire confiance. Quand le monde ou les choses nous paraissent absurdes, aide-nous à ne pas mettre notre confiance dans des choses qui ne durent pas. Aide-nous à rejeter l'horoscope. Aide-nous à rejeter l'occultisme, aide-nous à rejeter les idoles sous quelque forme que ce soit des objets, que ce soit des pensées ou des projets auxquels nous tenons plus qu'à toi. Seigneur, aide-nous à te faire confiance en toutes choses, parce que tu es le roi éternel. Amen.